à tous, soyez les bienvenus en direct ou en podcast. Je vous propose ce matin de prendre un peu de recul avec notre vie quotidienne. Coup de projecteur sur les bienfaits de l'art. L'art, ce reflet que renvoie l'âme humaine, éblouie de la splendeur du beau. Ce n'est pas de moi, je vous rassure, mais de Victor Hugo. Dans son nouveau livre coécrit avec l'historienne de l'art Camille Told, Laurent Gounelle célèbre l'art qui fait du bien. L'auteur du best-seller L'homme qui voulait être heureux nous propose de visiter son musée idéal où il explore des thèmes qui lui sont chers, comme la nature, l'enfance, la spiritualité ou l'amour. C'est l'occasion ce matin de célébrer ces grands artistes qui ont le don d'accéder à des vérités de façon instinctive et inconsciente, des vérités qu'ils retranscrivent sans toujours s'en rendre compte, des artistes plus précieux que jamais en s'étant heurtés et qui nous aident à ressentir ce que nous savons confusément au fond de nous. Avec Laurent Gounelle et Camille Told, la journaliste de Psychologie Magazine, Christina Pelédouel, ils partagent avec nous ce matin quelques peintures chères à leur cœur et qui illuminent leur existence. N'hésitez pas, vous aussi, à partager les tableaux de votre vie, ces peintures qui vous ont permis de mieux vous connaître. Standard ouvert au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Bonjour Guillemette Audicino.
Bonjour Ali.
J'imagine là ce qu'un Marc Chagall aurait révélé de votre belle âme. Là. J'ai un tableau en tête, là. J'ai un tableau.
Mais vraiment, mais d'autant qu'il a un musée à Nice.
Oui, il vous aurait peint avec votre faux pull moche de Noël. Parce qu'il n'est pas moche votre pull.
Non, moi j'ai un vrai pull de Noël beau.
Et on retrouve
ça existe.
On retrouve évidemment votre esprit d'escalier tout au long de l'émission. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien Vous Fasse. Ali Rébéi.
Bonjour Laurent Gounelle.
Bonjour Ali.
Je suis ravi de vous recevoir. Vous êtes écrivain, l'auteur du best-seller L'homme qui voulait être heureux. Bonjour Camille Told.
Bonjour Ali.
Vous êtes historienne de l'art et vous avez écrit ensemble un très beau livre, L'art vous le rend bien. C'est publié chez Calman Levy et aux éditions de la Réunion des musées nationaux. Alors avant d'explorer votre livre, Laurent Gounelle, j'aimerais qu'on fasse davantage connaissance, pour notamment ceux qui ne vous ont pas lu. Vous êtes écrivain, consultant en relations humaines, diplômé en économie et commerce extérieur. Et avant de connaître un immense succès avec L'homme qui voulait être heureux, traduit dans le monde entier, vous étiez contrôleur de gestion, entrepreneur, vous n'étiez pas vraiment épanoui, jusqu'à ce que vous vous intéressiez à la psychologie, et là, c'est une révélation.
Oui.
Je précise que vos parents ne voulaient pas que vous deveniez psychiatre.
C'est vrai. Alors, le métier que vous évoquez, c'était il y a 30 ans. Hein, parce que j'ai très vite réalisé, en sortant de mes études à 23 ans, une fois projeté dans le monde professionnel, que le monde des chiffres, des finances et toutes ces belles choses peuvent être intéressantes pour certains, mais en l'occurrence, c'était pas pour moi. Donc, j'ai traversé une crise personnelle, enfin professionnelle d'abord et puis personnelle assez forte, puisque je me suis demandé ce que j'allais faire de mon existence. Et c'était une crise qui s'est avérée tout à fait salutaire, puisque ça m'a amené à me poser de bonnes questions que je me serais peut-être sans doute jamais posé sinon, donc des questions existentielles sur moi, sur le sens de la vie. Et c'est ensuite que je suis devenu consultant pendant une quinzaine d'années. Mais un métier que j'ai dû arrêter il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans, pour me consacrer à l'écriture.
Alors L'homme qui voulait être heureux est né de vos lectures en psychologie, de vos stages en développement personnel. Dans ce roman, la ligne de base, c'est rompre avec les liens qui nous enchaînent.
Oui, c'est-à-dire
le leitmotiv de ce roman.
De mon premier roman, ouais. C'est ça? Oui, tout à fait. C'est-à-dire, en fait, on ne réalise pas forcément que notre vision du monde, et au-delà de notre vision du monde, même la façon dont on vit notre existence, est complètement induite par un certain nombre de choses qui ont conditionné notre esprit, alors de par notre éducation, bien sûr, mais pas que, c'est aussi par notre personnalité qui est innée, on vient avec à la naissance. Et finalement, on a en nous un certain nombre de croyances, une constellation de croyances, hein, pas croyances au sens religieux du terme, ce n'est qu'un exemple très spécifique de croyance. Non, les croyances, c'est les choses que l'on croit sur nous, sur les autres, sur nos capacités, sur ce qu'on est capable de faire ou pas dans la vie, puis aussi les croyances sur la vie elle-même, sur le monde qui nous entoure, sur les autres, bien sûr. Et donc, toutes ces choses que l'on croit, sans même savoir d'où elles viennent et en avoir conscience, ben, conditionnent notre vie, finalement.
Alors, dans votre premier best-seller, votre héros se libère de ses chaînes, de ses pesanteurs, grâce à la rencontre avec un vieux sage baliné, Maître San Tiang, qui lui révèle quelques sagesses. Par exemple, qu'il est possible d'approcher le bonheur quand on sait dire non, quand on ose, quand on se fait confiance, quand on sait ce que l'on veut. Des recettes qui peuvent, a priori, paraître simplistes, voire un peu bêtes. On vous compare d'ailleurs, parfois, à Paulo Coelho.
Oui. Alors, c'est vrai qu'il y a des idées qui sont simples, et en fait, le piège, c'est que ce qui est simple pour l'intellect ne l'est pas forcément pour notre âme, j'ai envie de dire, ou en tout cas notre psyché. C'est-à-dire il y a des choses qui semblent assez faciles à comprendre, mais de là à les intégrer, oui, les passer dans le muscle, en fait, c'est pas évident.
Et vous dites une chose assez juste, entre énoncer une évidence et la mettre en pratique, il y a un pas immense.
Oui, complètement. Et c'est là où moi, la psychologie cognitive, et notamment les mouvements cognitivo-comportementalistes, m'ont aidé à un moment donné, parce que je pouvais tout à fait comprendre ce qui se passait ou ce qui, moi, m'empêchait d'être pleinement épanoui dans la vie. Mais de là, changer, vous voyez, conduire en moi un changement, mais là, il y a un pas qu'il n'est pas aisé de franchir.
Vous qui avez écrit L'homme qui voulait être heureux, que pensez-vous de l'idée que le bonheur soit devenu une idéologie, que nous vivons sous une tyrannie du bonheur, une apicratie, pour reprendre le titre d'un livre de la grande sociologue Eva Illouz?
Ben, plusieurs choses me viennent à l'esprit simultanément. D'abord, la tyrannie du bonheur, moi je la vois surtout dans les réseaux sociaux. Vous voyez, quand tout le monde publie des photos de soi parfaite en vacances, et quand vous voyez les photos publiées par vos amis, vous avez l'impression d'avoir des vacances complètement nulles à chier, quoi. Et donc là, évidemment, il y a en effet une espèce de dictat du bonheur. Maintenant, si on évoque à travers ça le fait que de plus en plus de gens veulent être heureux et prennent en charge leur vie, ben là, c'est pas du tout un dictat. Au contraire, pour moi, c'est le signe plutôt d'une évolution de l'humanité. Vous savez, c'est le philosophe Abraham Maslow qui avait hiérarchisé les besoins humains et qui montrait bien qu'une fois qu'on a dépassé le besoin de reconnaissance, le besoin d'appartenance et bien sûr en dessous le besoin de sécurité, etc., bah finalement, on en arrive dans des hautes sphères à des besoins de réalisation de soi, quoi. Donc c'est plutôt le signe d'une évolution positive de l'humanité.
Christine Pelédoel de Psychologie Magazine.
Oui, sur cette question de la happycratie, je pense qu'il y a aussi quelque chose, c'est que cette tendance, enfin ce désir d'aller vers le bonheur, d'ailleurs quel bonheur, on ne sait pas toujours très bien, mais c'est également inversement proportionnel à ce qui est ressenti et vécu dans une société de plus en plus contraignante, difficile, angoissante, angoissée, les problèmes de l'environnement, les problèmes sociaux, les problèmes économiques, etc. C'est vraiment, on a l'impression que ça fonctionne, j'allais dire, main dans la main, côte à côte, et que lorsque l'un augmente, l'autre augmente aussi.
Oui, et peut-être aussi que pendant assez longtemps, on avait foi dans, j'ai envie de dire, dans les gens qui nous gouvernent ou qui pourraient nous gouverner. Vous voyez, si on a le sentiment que c'était pas les bons, entre guillemets, au pouvoir, on attendait les prochaines élections, on se dit, ça va changer. On a tous connu, je pense, en tout cas ceux de ma génération, j'ai 53 ans, de l'espoir par rapport à des élections. Et en l'occurrence, aujourd'hui, je vois plus beaucoup d'espoir, moi, parmi tous les gens que je connais, tous ceux que je rencontre. C'est-à-dire, on a essayé un peu tout le monde au pouvoir, et aujourd'hui...
Eh bien, l'art peut nous redonner de l'espoir. Voilà. Dans votre dernier livre, L'art vous le rend bien, vous rappelez que notre perception du monde est limitée et subjective, que nous savons confusément qu'il manque des clés pour révéler un monde sensible que nous n'arrivons pas toujours à voir, et l'art possède évidemment cette capacité.
Oui, parce que moi, bon, vous l'avez un peu évoqué, ça fait 25 ans que je m'intéresse à la psyché humaine et à ce qui peut nous rendre heureux. C'est-à-dire, j'ai besoin de comprendre le monde, de comprendre les autres, de comprendre comment un être humain fonctionne. Et en même temps, après 25 ans de travail, de recherche dans ce domaine, ben je réalise que ben on n'arrive pas à tout savoir, et je n'arrive pas à tout savoir. Il y a des choses qui nous échappent, vous voyez, et qu'on ne sait pas encore expliquer scientifiquement, par exemple, sur lesquelles on ne peut pas encore mettre de mots. Et je trouve que les artistes ont une longueur d'avance, quelque part, sur ce plan. Pas forcément consciemment. Moi, j'ai la conviction que la plupart des artistes ne savent pas exactement ce qu'ils font. Vous voyez, parce qu'on entend parfois des critiques d'art qui vont interpréter une œuvre. Alors, c'est peut-être juste, d'ailleurs, mais assez souvent, pour moi, l'artiste a une sorte d'accès un peu fulgurant à la source, vous voyez, qui lui l'amène à toucher du doigt une vérité sans même qu'il l'ait conscientisé lui-même. Sauf que nous, en admirant cette œuvre, au-delà de la beauté, évidemment, des formes et des couleurs, bah, je pense que si une œuvre nous touche, c'est pour d'autres raisons, des raisons bien plus profondes, en fait. C'est-à-dire qu'on ressent un peu confusément au fond de nous cette vérité que l'artiste a touchée du doigt.
Camille Told.
Oui, alors, c'est vrai que face à une œuvre d'art, il y a vraiment un millefeuille d'interprétations possibles. Évidemment, il y a le rapport des formes et des couleurs. Et puis, il y a ce que l'artiste a voulu montrer, ce qu'il a voulu raconter à travers son œuvre. Il y a aussi ce que une œuvre peut dire d'une société, d'une époque à un moment donné. Et puis enfin, il y a les échos intimes qu'une œuvre peut susciter chez le spectateur. Et ça, c'est une dimension très intéressante. Et je pense que derrière le livre, il y avait vraiment plus que l'idée unique de la quête du bonheur ou des artistes qui seraient des vecteurs vers le bonheur. C'est l'idée que l'art aide à vivre, et y compris, je pense que ça se voit dans le livre, des émotions plus sombres que la joie, le bonheur, enfin voilà, c'est des choses...
Guy Métodicino.
Oui, c'est vraiment intéressant. Je reprends ce que vous disiez sur le fait que souvent, l'artiste propose quelque chose et en fait les critiques vont commencer à analyser, etc. Souvent, alors moi je suis pas critique d'art, mais puisque je suis critique de cinéma, donc c'est pareil. Et souvent quand on écrit une critique ou quand on rencontre un cinéaste et qu'on lui dit ah mais évidemment vous avez voulu parler de ça, vous avez voulu montrer ça, ils nous disent ah oui, ah mais c'est très intéressant, parce que en fait c'est souvent aux critiques de révéler à l'artiste ce que lui a nous a fait passer inconsciemment. Et cette beauté que nous on a ressentie, et souvent c'est d'ailleurs le dialogue est très intéressant entre le critique et l'artiste, ouais. Parce que il y a révélation commune en fait.
Mais oui, j'en suis convaincu.
Qu'est-ce qu'il appelle Edouel?
Oui, ce qui est intéressant justement, c'est cet espace qu'on ne peut pas réduire, c'est impossible, on ne peut pas l'analyser, on ne peut pas le réduire, l'art. Alors j'ai entendu ce matin l'interview de Pierre Soulages, donc qui va fêter ses 100 ans et qui a une magnifique rétrospective au Louvre. Il a dit une phrase qui me paraît essentielle, il a dit la phrase suivante: elle touche en nous, l'art, en parlant l'art, la peinture, touche en nous des couches profondes que nous ignorons. Voilà, et pour moi c'est la définition parfaite du pouvoir de la peinture, du pouvoir de l'art en général, de l'art pictural. Et c'était ce matin sur France Inter, pour ne pas citer.
Vous faites bien. Laurent Gounelle, dans leur formidable livre Art Thérapie, Alain de Botton et John Armstrong affirment que l'art peut nous aider à aller mieux. L'art peut nous guider, nous stimuler, nous consoler, compenser certaines fragilités psychologiques. Ouais. Vous êtes d'accord avec ça?
Ah oui, tout à fait. Et je dirais pas que les œuvres gaies et positives, ça rejoint ce qu'évoquait Camille tout à l'heure. D'ailleurs, il y a une étude scientifique qui a été menée il y a un an ou deux, et qui a démontré que lorsqu'on a un coup de blues, ce qui fait partie de la vie, ce qui est normal, c'est à un moment donné, voilà, on va pas bien, on se sent triste ou déprimé, et bien en fait il a été démontré scientifiquement que ce n'est pas en mettant une musique gaie qu'on va revenir plus facilement dans un état positif, c'est au contraire de s'autoriser à mettre une musique vraiment très très triste, très mélancolique, et donc à ressentir vraiment ce moment de spleen.
C'est une sorte de purgation des passions.
Oui, et peut-être aussi d'accueil, tout simplement.
Il y a un phénomène d'empathie.
Accueil d'une émotion qui est tout à fait humaine, donc d'acceptation, quelque part, et c'est ça qui nous permet ensuite de revenir dans un état plus serein.
Camille Toll, de l'idée que l'art puisse être utile, qu'il permette une meilleure connaissance de soi, ça peut paraître trivial, peut-être, pour certains historiens de l'art?
Oui, alors l'art depuis toujours a des fonctions très très différentes. À la fois pour l'artiste, évidemment, c'est un moyen d'expression, c'est un moyen de sublimer ses pulsions. Pour la société, il y a une valeur très très forte, une valeur symbolique très forte de l'art comme moyen aussi d'incarner le pouvoir, par exemple, ou comme vecteur pour les religions, comme moyen d'exprimer le sacré. Et puis pour les spectateurs, il y a tout un ensemble de fonctions qui sont très variées. Ça peut aller d'une fonction décorative, on apprécie un tableau parce qu'il a des jolies couleurs et que ça va bien dans votre salon, mais aussi pour des choses plus profondes, des valeurs commémoratives, le souvenir, parce que jusqu'à la moitié du 19e siècle, la photographie n'existait pas, et donc se souvenir des personnes qu'on aime qui ont disparu ou qui sont loin, ça passait par l'art du portrait. Et puis aussi, évidemment, presque parfois une fonction magique. On a l'impression que l'œuvre vous ouvre à un autre monde en la regardant.
Alors on va explorer dans quelques minutes votre musée idéal, Laurent Gounelle. Dites-nous au 01 45 24 7000, quels sont les tableaux de votre vie, ces peintures qui vous ont transformé, qui vous ont permis de voir le monde autrement, de mieux vous connaître. Vous pouvez également nous contacter sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Alexia Rivière, Claire Destacan et Julien Macarez m'ont aidé à préparer cette émission, réalisée par Stéphanie Texier. interpréter Last Christmas.
Nous allons entrer dans un musée. La seule chose que je vous demande, c'est du silence.
Grand bien vous fasse. Sur France Inter.
10h24, on s'intéresse ce matin à quelques tableaux qui font du bien avec le romancier Laurent Gounelle et l'historienne de l'art Camille Told. Racontez-nous quels sont les tableaux qui vous ont permis de mieux vous connaître, de mieux connaître le monde au 01 45 24 7000. Je vous propose d'écouter le comédien Denis Lavant qui évoque le peintre Francis Bacon.
Les tableaux de Francis Bacon, ça vaut la peine de les voir physiquement parce que c'est il y a quelque chose de physique qui retentit avec. C'est le tableau qui vous saute au visage, c'est vibratoire, quelque chose que j'ai rarement ressenti face à des œuvres d'art. Sinon, devant des sculptures de Camille Claudel.
Denis Lavant, qui évoque l'expo Francis Bacon au Centre Pompidou. Alors, dans votre beau livre, là, vous le rend bien, Laurent Gounelle, vous avez découpé votre musée idéal autour de plusieurs thèmes qui vous sont chers. Oui. La nature, l'enfance, l'introspection, la spiritualité. J'aimerais qu'on s'arrête sur quelques tableaux qui évoquent la nature. Quel est d'abord votre rapport à la nature? Pourquoi a-t-elle le don de vous rendre plus vivant, plus heureux?
Eh bien, en fait, la nature me permet de me recentrer. C'est-à-dire, si je suis décentré par un souci, par une parole blessante ou je ne sais quoi, en fait, c'est le fait de retourner dans la nature qui m'amène à me rassembler, vous voyez, à redevenir pleinement moi-même, à me retrouver. Et je pense que c'est pas anodin. C'est le fait de marcher dans la nature m'amène à sentir que finalement, je ne suis qu'un élément de ce que les Amérindiens appellent le grand tout, n'est-ce pas? Et on pourrait dire, mais pourtant, c'est s'effacer si on ne se voit que comme une poussière. Oui, mais en même temps, il y a un vrai bonheur par rapport à ça, de se retrouver finalement à sa place, puisque l'homme est un élément de la biosphère, n'est-ce pas?
Dans votre livre, donc, vous avez choisi pour évoquer la nature, Quelle liberté, le tableau Quelle liberté d'Ilia Repine. C'est une huile sur toile de 1903 exposée au musée de Saint-Pétersbourg. Pourquoi l'avez-vous choisi? Mais décrivez-nous d'abord peut-être ce tableau.
Oui, alors... On aperçoit deux personnages. Il y a un militaire en permission et une jeune femme, et ils sont tous les deux au milieu des vagues de l'océan.
Des éléments.
Voilà, ils sont comme s'ils appartenaient à l'océan. Et moi, ça me fait penser à une métaphore qu'on trouve à la fois dans l'hindouisme et dans le bouddhisme, une métaphore de libération de l'ego, où on explique que finalement, l'être humain, il est un petit peu comme une vague au milieu de l'océan. C'est-à-dire, si vous prenez une vague, vous regardez la mer, vous repérez une vague, vous pouvez dire, en effet, elle est unique. Quelque part, il n'y en a pas deux comme elle. Donc, si elle était dotée comme nous d'une psyché, elle pourrait être fière de son unicité. Se dire, oui, je ne suis pas comme les autres, je suis plus belle, je suis plus grande, etc. Et en même temps, cette vague n'existe pas sans l'océan. Et même au-delà de ça, on peut dire que finalement, cette vague, elle est l'océan. Et ça, c'est une métaphore de l'ego, de l'être humain, et du fait que lorsqu'on arrive à se libérer de notre ego, et qu'on ressent cette unicité, ce lien en fait, qui nous rassemble, qui nous unit tous les uns les autres, et bien, en fait, en abandonnant notre ego, on ressent le véritable bonheur, en fait, qu'il y a une union, une forme de communion.
Camille Told, commentaire de cette toile, Quelle liberté d'Ilia Repine?
Oui, alors Ilia Repine, c'est un artiste russe qui fait partie d'une génération qui, pour la première fois, s'est détachée des dictats de l'académisme de l'époque. Et là, il souhaite montrer l'écho que on peut trouver parfois entre ses sentiments intimes et la beauté de la nature. Et donc, ce couple marche au bord de la mer. La mer remplit quasiment la totalité du tableau et on est aussi joyeux que les vagues devant ce tableau.
Guillemette Odissino.
Ce que je trouve fou dans cette toile, c'est effectivement sa modernité. Le cadrage est absolument incroyable, c'est-à-dire que les personnages, effectivement dans le classicisme, normalement, les personnages devaient être beaucoup plus centrés, beaucoup plus des personnages principaux, comme on pourrait dire dans un film. Et là, le cadrage est fou, c'est-à-dire les personnages sont en haut à l'extrême droite et cette vague envahit tout, c'est fou. Oui. Mais quand même, moi je trouve que cette toile, elle peut être en écho aux voyageurs au-dessus de la mer des nuages de Caspar David Friedrich, parce que là, il est centré. il est centré, il regarde une mer de nuages, mais là aussi, on a l'impression que les nuages peuvent l'engloutir d'une minute à l'autre. Là, le sentiment est plus mélancolique. Mais il y a quelque chose d'une communion absolue avec les éléments, quoi. Ce sont les éléments qui sont les personnages principaux de la toile.
À défaut d'aller au musée de Saint-Pétersbourg, vous pouvez donc retrouver sur un moteur de recherche Quelle liberté d'Ilia Répine. Alors, Laurent Gounel, dans votre musée idéal, on retrouve, pour évoquer la nature, dans le jardin potager, La taille de la haie, de Camille Pissarro. C'est une toile peinte en 1878 et exposée à Florence. Dans le jardin potager, La taille de la haie.
Oui, et Pissarro, alors je parle sous le contrôle de Camille, Pissarro, je crois que c'est un peu le père des impressionnistes, c'est ça, quelque part, on est au tout début, et en fait, moi, ce qui me fascine avec l'impressionnisme, c'est que finalement, donc comme chaque assez, on arrive à voir des paysages, des personnages, etc., à travers de petits points, des petites touches, et en fait, vous voyez, on évoquait tout à l'heure dans l'entrée de jeu, au début de l'émission, que finalement, les artistes arrivent à toucher l'essentiel et des vérités cachées aux yeux, et bien pour moi, c'en est une illustration parfaite, puisque les physiciens de la matière vous explique que finalement si on zoome suffisamment, vous voyez sur cette table qui est devant nous par exemple, si on zoome suffisamment, on se rend compte qu'elle est faite de particules et qui ne sont même pas solides finalement, qui flottent, c'est-à-dire tout est constitué de petits points en mouvement, vous voyez. Et donc c'est comme si ces peintres avaient réussi à capter cela. Quoi.
Décrivez-nous dans le jardin potager La taille de la haie. Pourquoi ce tableau vous touche à ce point?
Moi il me touche parce qu'en fait, alors on voit une femme qui prend soin d'une haie, donc elle est dans un jardin, et pour moi en fait elle évoque la nécessité qui est la nôtre, et sans doute aujourd'hui plus que jamais, de prendre soin de la nature. C'est-à-dire on voit cette femme qui accorde une attention particulière. C'est-à-dire elle n'est pas dans l'exploitation agricole, d'accord. Elle est vraiment dans le fait de prendre soin. Elle prend soin de la nature. Et moi, c'est une image qui me touche particulièrement.
Et Camille Told.
Oui, alors avec les impressionnistes, autour des années 1870-1880, on assiste au début d'une sorte de libéralisation de l'art qui se détache des institutions qui jusque-là régissaient la scène artistique, l'académie notamment, le salon aussi. Et les artistes ont davantage de liberté, se libèrent d'un certain nombre de conventions et s'autorisent à une plus grande subjectivité. Les impressionnistes, leur credo, si on peut dire, c'est de traduire en peinture ce qu'ils voient, eux, à un moment précis. Et donc, ce que fait ici Pissarro, comme d'autres peintres de ses amis, il cherche à traduire l'ambiance rurale d'un jour de printemps passé dans un potager à la campagne.
Christine Lapelle-Edouel, de Psychologie Magazine.
Ce tableau merveilleux, parce qu'elle a la présence humaine aussi, me renvoie directement à un tableau merveilleux de Millet, qui s'intitule « Printemps ». Et dans lequel, alors il n'y a pas de personnage dans cette toile, il y a juste un fond de forêt et un champ avec un pommier, si je me souviens bien, et surtout un arc-en-ciel au-dessus. Et c'est toute à la fois la force, la puissance et la violence et la beauté de la nature au printemps. Et il y a une force vitale dans cette toile qui est absolument merveilleuse et extraordinaire. Elle n'est pas très connue, mais je pense vraiment une des plus belles toiles de Millet. Je crois qu'elle est au musée d'Orsay. Je crois qu'on peut aller la voir au musée d'Orsay. C'est un petit tableau.
Bonjour Martine, bienvenue.
Bonjour.
Alors, quel est le tableau, l'un des tableaux qui vous a marqué dans votre vie?
Eh bien, écoutez, en fait, j'étais pas une fan d'art au départ, et j'étais plutôt jeune. Et un jour, tout à fait par hasard, j'ouvre un bouquin et je tombe sur un tableau de Turner qui s'appelait le Pluie, brouillard et vitesse. Et on voit un train, en fait, qui sort du brouillard. Et puis, c'était peu de temps avant mon bac de français et j'étais particulièrement mauvaise en français. Mmh. Et le texte que je devais décrire ce jour-là, en fait, parlait d'un train. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai exprimé dans mon commentaire toute l'émotion que j'avais ressentie en voyant le tableau de Turner. Et du coup, je me suis retrouvée avec un 17 ans en français au bac, alors que j'étais la dernière de la classe en permanence. Et c'est vrai que j'ai rendu mon prof de français un peu verdâtre, mais elle m'a dit « mais comment ça se fait ?» Elle était hyper surprise. Et j'ai trouvé que c'était une belle façon de s'intéresser à l'art. Et depuis, je m'intéresse vraiment beaucoup, beaucoup à l'art, parce que je me dis « je leur dois beaucoup finalement à ces peintres, etc. Voilà. »
Donc je rappelle le titre du tableau, c'est « Pluie, vapeur et vitesse » de Turner.
Oui, c'est ça, voilà, c'est pas brouillard, c'est pluie, vapeur et vitesse, je sais pas si vous voyez, c'est un train.
Oui, je l'ai devant les yeux, là, je l'ai devant les yeux,
c'est quelque chose d'assez...
C'est sublime.
Et du coup, j'ai fait énormément aussi de voyages en train, et à chaque fois, je pense à ce tableau. Et j'ai l'impression que quelque part, ce tableau, il a vraiment marqué ma vie, vous voyez.
Guillemette Audicino.
C'est fou, je suis d'accord avec vous. Ce tableau, on dirait que ça bouge. Enfin non, mais on dirait que le train bouge. Enfin, c'est pratiquement, c'est comme l'entrée en gare du train dans la gare de la Ciotat des Frères Lumière, quoi. Il y a quelque chose de fou. C'est incroyable d'arriver à traduire le mouvement comme ça sur une toile.
Merci beaucoup, Martine, de nous avoir appelé. Bienvenue, Gérald.
Merci à vous.
Bonjour, oui, bonjour. Gérald. Alors, quel est le tableau, l'un des tableaux de votre vie?
Alors, l'un des tableaux de ma vie, c'est l'île des morts de Böcklin.
Ouais, décrivez-le.
Arnold Böcklin.
Décrivez-le.
Je le décris avec un passeur qui est sur sa barque. Il n'y a pas de traces sur l'eau et ça arrive à l'île. Une île qui est un petit peu, on va dire, fantomatique avec des cyprès. Mais il y a un apaisement qui est extraordinaire. Et moi, j'ai une relation musicale avec... l'adagio de du cinquième mouvement, de la cinquième de Mahler, qui a servi d'ailleurs dans le film Mort à Venise. Et il y a cette notion d'apaisement qui est extraordinaire pour moi. Voilà.
L'île des morts.
Un tableau qui me parle beaucoup. L'île des morts d'Arnold Böcklin. Et en fin de compte, ça traduit, non pas, c'est pas triste du tout. C'est le passage, c'est la dernière porte qu'on va franchir. Mais en fin de compte, c'est un apaisement. Donc, et voilà, c'est un tableau qui est très impressionnant. Il y a ces grands cyprès. Je crois que c'était un petit peu un peintre qui peignait beaucoup des choses un peu sombres comme ça, de cyprès. Il a été assez marqué par la mort, mais paradoxalement, ça me fortifie. Voilà. C'est un tableau qui est fortifiant. Voilà.
Laurent Gounel.
Oui, alors il se trouve par pur hasard que ce tableau est dans le livre, en effet. Et vous avez raison de dire qu'il n'est pas triste, même s'il est très sombre, et le sujet l'est aussi, bien sûr. Mais il n'est pas triste parce que pour moi, il illustre un peu une sorte de métaphore de ce qu'est la mort, à savoir un passage. Parce qu'on voit ces personnages qui sont sur une barque, qui se rendent sur cette fameuse île des morts. Et c'est un passage. C'est un passage et ça nous invite à considérer la mort différemment, donc en lui donnant un sens beaucoup plus positif et acceptable.
L'île des morts d'Arnold Böcklin que l'on peut voir au Metropolitan Museum de New York ou sur un moteur de recherche ou dans un livre d'art, évidemment.
Il y a eu beaucoup de versions de
exactement. Alors avec nous dans le studio, nos deux stagiaires de troisième, Lou et Redouane. Bonjour Redouane.
Bonjour.
Tu es en troisième où?
À Champigny-sur-Marne.
Et Lou?
Bonjour, je suis au collège Paul Bert dans le 14e.
Alors vous avez choisi deux tableaux qui vous marquent, qui sont importants pour vous. On va commencer avec toi, Lou.
Alors moi, un tableau qui m'a particulièrement marqué, c'est un tableau de Pablo Picasso. Il s'appelle Portrait de Olga Pensive. Et je le trouve très beau parce que dedans, il y a comme deux styles de dessin. Il y a comme un côté un peu flou et un autre au contraire très net. Et j'aime beaucoup aussi les couleurs qui sont... il n'y a pas beaucoup de couleurs, il y a juste la robe de Olga très bleue qui ressort. Et quand je le regarde, je me sens apaisée, je me sens bien.
Quel rapport tu entretiens avec l'art, avec la peinture?
Je ne vais pas beaucoup voir d'exposition, je ne regarde pas beaucoup de peinture, mais de temps en temps j'y vais avec mes parents et c'est vrai que j'aime bien. Je trouve ça intéressant et puis voilà, j'aime bien.
Redouane, qu'est-ce que tu as choisi comme tableau?
Moi, j'ai choisi La fille à la perle de Vermeer.
Très bon choix.
Il y a un tableau qui m'évoque ma grand-mère parce que chez elle, elle possède une copie de ce tableau. Ah, et chez ma grand-mère, c'est le lieu de famille où... Oui, exactement. Il y a plusieurs repas de famille agréables, drôles, des Noëls aussi, qui est la période d'ailleurs. Et ça me fait penser aux agréables moments et inoubliables moments que j'ai passés chez ma grand-mère.
Tu peux décrire le tableau?
C'est une jeune fille qui possède une boucle d'oreille. Et c'est une fille, je ne saurais pas dire de quelle époque, mais qui possède de beaux vêtements. Une fille qui reflète des émotions, on ne saurait pas dire lesquelles, c'est à vous de choisir d'ailleurs.
Quelle émotion elle suscite chez toi, tiens d'ailleurs?
Je dirais qu'elle est troublée pour moi. Pour moi, elle est un peu troublée, mais
Christina Pelédouel.
Oh bah, je trouve ça merveilleux, quoi, ce rapport direct. Voilà, Redouane, en trois phrases, a dit l'essentiel de ce qui peut nous unir à la peinture et à la contemplation d'une œuvre, c'est-à-dire pas seulement l'œuvre elle-même, mais tout ce qu'elle éveille, tout ce qu'elle évoque en nous, à la fois de souvenirs, d'émotions, de liens avec le reste de l'humanité. Et je crois que ça, c'est le pouvoir peut-être numéro un, si on devait les classer bêtement, mais vraiment ce lien qui nous unit tous à travers l'art. Et tout à l'heure, on parlait hors micro, hors antenne, du pouvoir de la peinture pariétale. On parlait de la grotte Chauvet en particulier. Ce que vient de dire Redouane m'évoque exactement ça, c'est-à-dire que la grotte Chauvet, cette grotte extraordinaire de peinture pariétale préhistorique, est un événement, quand on le voit, vraiment un événement au sens propre, c'est-à-dire que ça nous remue complètement, ça nous met en lien direct avec nos ancêtres, avec les débuts de l'humanité, et surtout avec le besoin absolu de l'humanité, à la fois de beauté, et en même temps d'essayer, en projetant le dessin, le trait, de comprendre le monde qui nous entoure, d'avoir un pouvoir sur le monde, et donc un pouvoir de transcendance face à notre destinée humaine. Et ce que vient de dire Redouane, ça m'évoque exactement ça. C'est-à-dire que lui, en quelques mots, a touché exactement ce qu'il y a de fondamental dans notre relation avec la peinture, avec l'art.
Allez, racontez-nous quels sont les tableaux qui ont marqué votre vie au 01 45 24 7000.
Ce serait facile, mais je...
Clara Luciani interprétait Ma sœur.
France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rebi.
10h44, on s'intéresse ce matin à quelques tableaux qui font du bien avec le romancier Laurent Gounelle et l'historienne de l'art Camille Told. Racontez-nous quels sont les tableaux de votre vie au 01 45 24 7000. Laurent Gounelle, dans l'art vous le rend bien, un chapitre consacré aux animaux. De quelle façon d'ailleurs les animaux contribuent à votre bonheur ?
Ah, d'abord, ils ont contribué très tôt, puisque quand j'étais jeune, j'avais un chat, et ça n'a pas été anodin. Non seulement je l'aimais beaucoup, comme c'est souvent le cas quand on a un animal, mais au-delà de ça, quand j'avais un chagrin, quand j'avais un petit problème, comme on peut tous en avoir dans l'enfance, bah, en fait, mon chat était là, et il était doué d'une sorte d'amour inconditionnel, le fameux amour inconditionnel dont parlent souvent les psys, qui nous disent il faut l'avoir pour ses enfants, mais en fait, l'animal l'a pour vous. Et ça, je le ressentais véritablement.
Et vous avez d'ailleurs choisi Chat sur un fauteuil de Théophile Alexandre Steinlen, un tableau peint entre 1900 et 1902.
Oui, alors c'est un tableau très très
Écrivez-le.
Beau. Bah, on voit ce chat là, qui est en boule, comme le sont souvent les chats quand ils dorment ou somnolent. Il est en boule sur un fauteuil et il nous regarde. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il nous regarde en levant la tête vers nous, mais de manière presque condescendante.
Un peu.
Voilà, on voit toute la superbe des chats. Ce côté un peu supérieur, où il nous fait bien comprendre que finalement nous sommes ses serviteurs.
Camille Told.
Oui, alors ce qui est intéressant avec cet artiste, avec Steinlen, c'est que il était à la fois spécialisé dans les peintures de chats. Il avait dans sa maison, il accueillait dans sa maison qui s'appelait Cat's Cottage, rue Caulaincourt à Paris, énormément de chats. Et il est aussi le peintre de Montmartre, du Montmartre populaire, des ouvriers, des blanchisseuses, des poulbeaux. Et c'est cette extrême sensibilité à la fois à la misère humaine et à l'animalité qui fait tout le sel de l'art de Steinlen.
Chat sur un fauteuil de Théophile Alexandre Steinlen. Un tableau qu'on peut... à Roubaix. Il est à Roubaix. Voilà, qu'on peut voir à Roubaix, à la piscine. Laurent Gounelle, vous êtes fasciné, et je suis fasciné également, par un tableau de Géricault. Tableau saisissant, la tête de lionne, peint vers 1819 et exposé au musée du Louvre. Qu'est-ce qui vous bouleverse dans cette tête de lionne absolument fascinante ?
Oui, et bien ce qui me bouleverse, ce qui me fascine, c'est que finalement, sans un seul mot, je trouve que Géricault, avec ce tableau, nous démontre que les animaux ont une âme.
Une intelligence. C'est-à-dire que ce qui frappe dans cette tête de lionne, c'est l'éclat d'intelligence qui émane de cet animal.
Oui, c'est-à-dire qu'au moment, elle a un regard très particulier, et dans son regard, on voit qu'elle a une conscience, que c'est pas juste un être physiologique, vous voyez, qui se déplace, qui mange, qui digère. Non, l'animal a une âme, et en fait, on le voit sur cette œuvre. C'est ça qui nous fascine, moi, je trouve.
Décrivez le tableau.
Ah ben, c'est une tête de lionne en gros plan, que l'on voit de profil, et donc on surprend, comme si on était caché, son regard. C'est un regard qui est porté au loin, donc il n'est pas tourné vers nous. Elle est de profil. Mais dans ce regard, on voit une intelligence, une profondeur. On voit plein de choses, en fait. Et on voit vraiment toute la profondeur de son âme, quoi, clairement.
Camille Told.
Oui, Géricault, c'est un artiste précurseur du romantisme. Il fait partie des premiers de sa génération, justement, à se détacher du canon néoclassique de la fin du XVIIIe siècle pour libérer son art. Et donc, il s'intéresse à un certain nombre de sujets inhabituels à l'époque. Donc, effectivement, un certain nombre de ce qu'on pourrait appeler des portraits d'animaux, comme ce tableau de Lyon, des portraits de fous, voilà, et des enfants aussi. Et il essaye de retranscrire, effectivement, toute l'intelligence, toute l'âme de ces êtres qui, à l'époque, ne sont pas considérés comme tout le monde. Enfin, voilà, qui sont déconsidérés.
La tête de lionne de Géricault que l'on peut admirer au musée d'Orsay. Laurent Gounelle, dans votre livre, vous consacrez quelques pages à des tableaux qui mettent en scène l'enfance. Par leur attitude face à la vie, les enfants sont pour vous des maîtres spirituels.
Oui, tout à fait. Ils ont plein de choses à nous apprendre, même si nous, on a également des choses à leur apprendre.
J'espère bien.
J'ai oublié ça. Mais, et en l'occurrence, ils ont plein de choses à nous apprendre, et notamment une certaine insouciance. Bon, je trouve que nous autres adultes, on a tendance assez souvent à prendre la vie un peu trop au sérieux, quoi. Donc ils ont une certaine insouciance. Ils peuvent aussi nous apprendre à lâcher prise sur le regard de l'autre, en tout cas jusqu'à un certain âge, parce qu'en général, à partir de l'entrée au collège, ça se complique. Hein, ils viennent un peu trop comme des adultes. Mais quand ils sont vraiment jeunes, ils sont très libres du regard de l'autre.
Vous avez choisi Le Ballon de Félix Vallotton, peint en 1899, un tableau exposé au musée du Louvre. C'est une ode à la liberté enfantine.
Oui, tout à fait.
Décrivez-le peut-être.
En fait, c'est assez étonnant parce qu'il y a un point de vue qui est très en hauteur, hein, un peu comme si c'était une vue d'avion, quoi. Donc c'est une vision en plongée, quoi. Et donc on est au-dessus de la scène où on voit une enfant qui joue avec un ballon, et puis plus loin deux adultes qu'on peut imaginer être ses parents, mais qui sont nettement plus loin. Et on la voit qui vole presque. C'est-à-dire on l'imagine sauter puisqu'il y a son ombre portée qui nous montre qu'elle est dans les airs au moment où le peintre a figé cette image, quoi. Ce qui accentue encore le sentiment de liberté qui est inhérent à l'enfance.
Un tableau de Goya dans votre livre, peint en 1791-1792, exposé à Philadelphie, c'est La Bascule. La Bascule représente pour vous, Laurent Gounelle, l'intensité de l'instant présent vécu par les enfants.
Oui, et aussi leur capacité à expérimenter des choses, ce dont on se coupe souvent étant adulte. Pourquoi ? Parce qu'on a peur de l'échec en général. Donc on se retient de faire des tas de choses qui pourraient être intéressantes. Alors pour moi, la vie, c'est expérimenter les choses. Et donc si on se refuse d'expérimenter par peur d'échouer, bon, on se prive de vivre finalement. Donc les enfants n'ont pas ces considérations, ils expérimentent. C'est pour ça qu'ils se font aussi souvent mal, quoi. C'est-à-dire, ils expérimentent, ils tombent, et on le voit d'ailleurs sur cette bascule, hein. Ils sont sur une espèce de balançoire improvisée avec un tronc d'arbre, et on devine bien que ça va sans doute finir par terre, au moins pour l'un d'entre eux, quoi. Et on sent que c'est pas un problème pour eux, ils expérimentent la vie, quoi.
La Bascule de Goya. Chrysilla Pellegoil.
En parlant de sentiment de liberté et de capacité d'explorer, c'est vraiment une des caractéristiques justement des peintres, hein, et de la peinture, de l'art en général. Et cela me renvoie à une œuvre qui n'a rien à voir avec l'enfance, quoique, qui est le Cyclope, qui est une œuvre collective qui se trouve en forêt de Fontainebleau, à Milly-la-Forêt exactement, et qui est une construction qui a été faite pendant une succession d'étés par un groupe d'artistes dont Jean Tinguely et Niki de Saint-Phal, entre autres, hein, ils étaient beaucoup plus nombreux, et tous les étés, ils venaient dans cet endroit et ils construisaient. Et finalement, ça a donné une œuvre extraordinaire qui est construite autour d'un chêne magnifique. Et chaque fois que je vais dans cet endroit qui était destiné à retomber en poussière, chaque fois que j'y vais, je sors de là avec un sentiment de joie, joie de vivre et de bien-être profond. Cette œuvre est absolument extraordinaire, c'est une œuvre vivante.
Bonjour Martine, bienvenue.
Bonjour.
Quel est l'un des tableaux de votre vie, chère Martine ?
C'est un tableau qui m'a fait découvrir le sens de l'art, en fait. J'étais pas du tout formée à ça. J'avais eu aucune initiation par ma famille. Et quand je me suis retrouvée jeune professionnelle à Bordeaux, il y a eu une exposition Picasso. Je me suis rendue pour découvrir. Et là, dès la première salle, il y avait un tableau qui s'intitule « Femme qui pleure ». Alors, évidemment, quand on n'est pas préparé, Picasso, c'est un peu étrange. Mais la question n'était pas là, je me suis mise à pleurer tout de suite. Mmh. En fait, et dès que je regardais ce tableau, je pleurais. Et donc, je suis partie parce que j'étais gênée, je ne pouvais pas maîtriser mon émotion. Donc, je partais, je suis allée voir les autres tableaux et mon regard était sans arrêt attiré par celui-là. Je revenais devant, je repleurais. Depuis, je me suis beaucoup intéressée à la peinture. Je visite énormément de musées, je pleure très souvent quand même dans les musées.
Mais continuez à pleurer dans les musées, Martine. Merci en tout cas pour votre témoignage. Alors, Laurent Gounelle, la peinture permet évidemment de nourrir son intériorité. Se reconnecter à son intériorité, c'est l'une des clés de notre épanouissement, de notre bonheur profond.
Oui, tout à fait. Et puis, c'est pas tellement dans notre culture, d'ailleurs. Et puis au-delà de ça, d'ailleurs, c'est l'époque qui veut ça. On a l'attention happée de plus en plus à l'extérieur, et notamment par toutes ces belles machines technologiques, n'est-ce pas, qu'on met à notre disposition. Et le risque par rapport à ça est de se couper, en effet, de son intériorité. Et pour moi, il y a plusieurs dimensions, certes, dans l'être humain, mais il y a une dimension intérieure qui est essentielle. Et l'art aide à se reconnecter à soi-même, finalement.
Vous avez choisi Philosophe en méditation, oui, de Rembrandt, peint en 1632 et exposé au musée musée du Louvre, philosophe en méditation de Rembrandt.
Oui. Écrivez, c'est un tableau extraordinaire, bon, qui joue beaucoup sur l'éclair obscur, comme assez souvent Rembrandt, je crois. Et donc le tableau est assez sombre, et on aperçoit devant une fenêtre qui diffuse une pâle lueur assez jaune, assez chaude. On aperçoit ce vieil homme qu'on sent tout à fait reposé et serein dans son acceptation de l'âge avancé. Puis à côté de lui, il y a un escalier en colimaçon qui serpente et qui pour moi, et peut être à la fois un symbole d'élévation spirituelle qu'apporte la méditation, qui est l'activité de ce vieillard, mais qui peut être aussi, si on le prend en descendant, une métaphore de la descente dans l'inconscient.
Camille Tolde.
Oui, Rembrandt, c'est vraiment un artiste de l'expressivité. Il arrive à travers ses clairs obscurs, comme celui qu'on voit dans Philosophe en méditation, à créer des atmosphères qui font écho aussi avec notre propre imaginaire. Et il faut aussi regarder les autoportraits, les très nombreux autoportraits de Rembrandt qui témoignent de ses propres capacités à examiner son âme. Il apparaît tour à tour en jeune homme inquiet, en bourgeois, en peintre, bien sûr. Et c'est vraiment la force de Rembrandt, c'est vraiment cette capacité à traduire l'âme humaine.
Philosophe en méditation, c'est à admirer au musée du Louvre. Alors, Guillemette Audicino, vous avez choisi Morning Sun d'Edouard Hopper, une toile qui vous touche profondément.
Oui. Et c'est fou parce qu'en fait, elle est au croisement de plein de choses. C'est-à-dire, ça pourrait être un peu la lionne de Jéricho, parce qu'en fait, cette femme, cette toile Morning Sun, c'est une femme assise sur un lit et qui regarde en dehors de la toile, en fait, parce qu'elle regarde par la fenêtre. Et cette fenêtre, finalement, devient pratiquement aussi importante que cette femme sur ce lit. Et il y a quelque chose à la fois d'extrêmement mélancolique et de incroyablement tourné, par définition, vers l'extérieur. Et alors, elle est pas en aussi gros plan que la lionne de Jéricho, mais c'est aussi un profil. Moi, j'aime énormément, en fait, cette notion de profil, c'est-à-dire ces personnages qui vous sortent de la toile. C'est-à-dire, ça dit aussi que le monde, il est dans la toile, mais justement, il est à l'extérieur de la toile, que c'est là qu'il faut aller. Et il y a aussi une sorte d'utilisation du clair-obscur chez Hopper qui est magnifique, comme chez Rembrandt. Une lumière qui est folle. C'est une lumière du quotidien et qui, en même temps, est magique.
Et l'amour dans tout ça, Laurent Gounelle. Vous avez choisi évidemment plusieurs toiles, notamment, ça m'a un peu étonné, a priori, Orange et jaune, de Marc Rothko, une toile peinte en 1956. Pourquoi ce choix ?
Parce que pour moi, l'amour ne se limite pas, même s'il l'inclut, à l'amour conjugal, l'amour entre deux personnes. Et l'amour, c'est avant tout un état. C'est un état dans lequel il n'y a pas vraiment un abandon de soi, mais en tout cas, on met notre attention sur l'autre, ou sur les autres, ou sur la vie en général. Et pour moi, l'amour, c'est un peu l'aboutissement de toute démarche d'éveil, de développement personnel et spirituel, vous voyez, avancer vers un état d'amour. Moi, j'aspire à ça, j'aimerais être dans cet état, vous voyez, du lever au coucher, ce qui est loin d'être le cas à mon corps, quoi. Mais j'ai des accès dans la journée, comme ça, des moments où je peux atteindre cet état où je me sens aimer la vie, aimer les plantes, aimer la nature, aimer les gens. Et c'est extraordinaire. Et pour moi, ce tableau, hein, qu'on peut décrire brièvement, hein, il est dans une déclinaison d'orange, je dirais, principalement.
De jaune et d'oranger.
En fait, c'est très lumineux. C'est un état lumineux qui ressemble, pour moi, à l'état dans lequel on est quand on rejoint ce sentiment d'amour.
J'aimerais qu'on termine avec un tableau d'Edvard Munch, ou Munch, je ne sais plus comment on dit, Munch, Le soleil peint, donc par Munch, entre 1910 et 1913.
Oui.
J'aimerais qu'on termine avec ce tableau.
Alors, Munch, moi je pensais Munch, vous voyez.
Quel snobisme, s'il appelle les deux. Laurent Gounelle.
Ce peintre. a souvent des peintures que je trouve souvent assez tristes, parfois, assez mélancoliques, en tout cas au niveau des teintes. Et celui-là, est au contraire lumineux, quoi. Lumineux, c'est une toile qui est assez extraordinaire, qui explose de vie. Et qui nous donne finalement une vision de ce que peut être un univers apaisé autour de nous et rayonnant.
Merci beaucoup Laurent Gounel et Camille Told. Je recommande vraiment L'art vous le rend bien, un très beau livre publié chez Calman Lévy et aux éditions de la Réunion des musées nationaux. Merci à tous, merci aux standardistes de France Inter et merci à la programmation musicale signée Muriel Pérez. Lundi, la philosophie peut-elle guérir le corps, avec la philosophe Laurence de Villers et Alexandre Lacroix, directeur de Philosophie Magazine. Permettez-moi de vous souhaiter un très beau Noël et de belles fêtes de fin d'année. Merci également, je l'ai oublié, nos deux stagiaires de 3e, Redouane et Lou.